Ah, il n'y a plus d'image. Ah non, l'enregistrement a commencé. Non, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut.
Appuyer sur. Oui. Oui, c'est ça.
Bien. Alors, après les petits incidents de connexion, on va pouvoir commencer donc la dernière séance du séminaire de cette année. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il faudrait encore en faire un l'année prochaine. Je ne sais pas si vous aurez le courage. Mais j'ai autant l'impression qu'il y a des attentes de précision ou d'approfondissement qui s'accumulent plutôt que l'inverse. Et en tout cas, entre les séances, je travaille avec les bandes-son des séances précédentes. C'est un instrument de travail assez remarquable. Et je me rends compte souvent, notamment dans la partie questions-réponses, que beaucoup de choses sont en fait laissées de côté par moi. Et en l'occurrence, Christian Perrin a posé une question la dernière fois concernant l'état, à laquelle j'ai répondu comme je pouvais dans la chaleur du moment. Mais je pense qu'il faut que je revienne sur les attendus, selon moi, de cette question. Et je vais le faire. Donc j'ai rédigé une petite note intermédiaire entre la séance 5 de la dernière fois et la séance 6 qui commence à l'instant. Je pense que j'essaye au moins, parce que c'est quand même un séminaire un peu philosophique quand même, j'espère. Un des enjeux, c'est peut-être de préciser un lexique avec lequel on peut, pas nécessairement, loin s'en faut, parler dans le courant des espaces quotidiens, mais en tout cas réfléchir. Voilà. Donc par exemple, je pense avoir essayé de proposer une distinction entre le registre du commun stricto sensu, si on dit, et la communauté. Des distinctions de lexique ou de vocabulaire de ce type-là. Je pense qu'il faut en faire aussi entre la politique et l'État, par exemple, ce qui était, je pense, l'enjeu de la question de Christian Perrin. Je vais y revenir à l'instant dans la note intermédiaire. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose, je vais y revenir tout de suite pour démarrer cette note, à bien distinguer entre ce que j'appelle l'idée de politique et par conséquent le caractère idéal ou idéal, comme vous voudrez, de la politique. Enfin, il y a quelque chose d'idéal dans la politique. C'est une idée qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, qui a été poussée, à mon avis, par les Grecs jusqu'à l'idée de démocratie, qui n'est pas nécessairement une réalité. C'est justement le point clé. Je suis bien conscient que l'idée de politique dont je parle, ou l'idéal de politique dont je parle, ne correspond pas à la politique réelle, et que les réalistes en politique peuvent sourire en entendant parler les idéalistes en politique, par définition. Voilà. Est-ce que pour autant faut lâcher sur l'idée ? Ben, c'est plutôt non, ma réponse. Mais il faut soutenir cette idée. Il faut en concevoir les conséquences. Donc, pour le moment, dans l'état où je suis, dans la capacité de précision lexicale que je suis capable de fournir, voici ce que je peux dire. Que idéalement, la politique, en tant qu'elle est liée à l'idée d'une humanité, alors je vais le dire dans un langage un peu chic, disons, idéalement, la politique, en tant qu'elle est liée à l'idée d'une humanité vouée à une gouverne immanente. Alors, peut-être que l'un des enjeux de la remarque liminaire que je suis en train de faire sur le plan des mots, des notions ou des concepts, c'est de lier l'immanent dont j'ai parlé la dernière fois, le caractère immanent de la politique, idéale, dans son idée, c'est de lier ce mot-là, immanent, la politique. L'idée de politique, c'est l'idée que l'humanité est vouée à se gouverner elle-même, non pas à être gouvernée, par des systèmes qui pourraient être biologiques, par exemple, ou même par des dispositions qui pourraient se fonder sur de la transcendance, hein, c'est-à-dire un enseignement divin, par exemple. Un prophète a entendu une parole transcendante et la transmet et gouverne en conséquence. Je pense que l'idée de politique est liée à l'idée d'une humanité, à la construction d'une idée de l'humanité qui n'est pas apparue n'importe où ni n'importe quand dans l'histoire, comme étant capable de se gouverner. C'est ça que j'appelle l'immanence de la politique dans son idéal. Bon. Et en fait, ce dont je m'aperçois, que je pense, et que je n'aurais pas été capable de dire il y a 2 mois ou 3 mois, quand a commencé le séminaire, c'est que l'idée d'anarchie, telle que j'en comprends le concept dans le livre de Catherine Malabou, que j'ai maintes fois cité dans ce séminaire, correspond à ça, à l'immanence de la politique. Fondamentalement, anarchie, ça veut dire qu'il n'est pas précédé. L'arché, le A est privatif, et archi, il n'y a rien qui anticipe. Ben, l'humanité qui se gouverne, elle n'est pas anticipée dans sa gouverne, puisqu'elle se gouverne. Hein, est-ce que je suis à peu près clair? Je l'espère. Bon, idéalement, donc, la politique, en tant qu'elle est liée à l'idée d'une humanité vouée à une gouverne immanente, c'est-à-dire anarchique, si vous acceptez l'explication que j'en essayais de proposer, hein, la politique, en tant qu'elle est liée à l'idée d'une humanité vouée à une gouverne immanente, c'est-à-dire anarchique, idéalement, cette politique n'est rien d'autre qu'une résultante de l'existence de tous. C'est pour ça qu'on peut dire... Je pense qu'on peut dire que ceux qui ont inventé l'idée de politique, appelons-les les Grecs de l'Antiquité, ont poussé cette invention et cette idée jusqu'à cette autre idée qui nous reste quand même un peu, qui s'est appelée isonomie pour commencer, mais finalement démocratie. C'est que la politique n'est rien d'autre, au fond, qu'une résultante de l'existence de tous. Alors on va corriger, parce qu'on est quand même un petit peu réaliste, et on va dire l'existence du plus grand nombre. Voilà, le plus grand nombre possible. Hein. Plus, au fond, on serait proche de l'idéal politique, plus on serait nombreux à être les éléments de la gouverne immanente ou anarchique de l'humanité, de la non-commande extérieure, de la commande par soi-même, le soi-même voulant dire nous tous, hein, nous les plus nombreux en tout cas. Bon. Mais donc, cette politique... idéalement disséminée et ou partagée entre nous, nous tous, ou nous dans notre plus grand nombre possible, cette politique idéalement disséminée ou partagée entre tous n'a pas lieu. Hein, c'est la définition idéale, l'idéal n'a pas lieu. Bon. Ce qui a lieu, nous le savons bien, d'expérience, ce qui a lieu, c'est une politique qui tient lieu de politique idéale. Ce qui a lieu, c'est une politique qui tient à avoir lieu. Peut-être que la politique idéale ne tient pas à avoir lieu. Prenez cette expression et faites-la tourner dans tous les sens possibles. Voilà. Ce qui a lieu, c'est une politique qui tient lieu de politique idéale. C'est une politique qui tient à avoir lieu. Et même, j'ajouterais, c'est une politique qui tient à l'avoir lieu. La politique, dans sa réalité non idéale, donc, n'est pas disséminée. Elle a des centres. Il y a des centres de la politique, il y a des lieux de la politique. Et même, je vais essayer de préciser, la politique tient à l'avoir lieu, c'est-à-dire qu'elle va se lier à un territoire, tout simplement. Voilà. La politique, dans sa réalité non idéale, donc, n'est pas disséminée. Elle s'opère dans et depuis, je reprends mes expressions de la dernière fois, elle s'opère dans et depuis des temples et des palais, qui ne sont pas n'importe quel lieu, d'où il est parlé, signifié, ordonné et commandé, non pas communément, mais au titre du commun, par remplacement des plus banales significations du commun. Ce qui est signifié politiquement dans la politique réelle, ça n'est pas les significations les plus communes, qui circule entre nous tous, dans nos faubourgs, dans nos bourgs, dans nos demeures, etc. Ce qui nous est signifié, ce sont des propositions ou des commandements ou des ordres qui, d'une certaine manière, parlent pour nous, sans doute, mais aussi à notre place. Hein? Ça parle pour nous, y compris, comme on pourrait dire, dans notre intérêt. Voilà, ça parle pour nous. Et ça parle aussi à notre place, ça prend le lieu de la parole, etc. Bon. Donc la politique réelle s'opère dans et depuis des temples et des palais d'où il est parlé, signifié, ordonné et commandé, non pas communément, mais au titre du commun, par remplacement des plus banales significations du commun. Je pense que j'ai oublié de dire la banlieue, le lieu du banc, etc. Vous voyez, toutes les choses qui sont écartées, mises de côté au banc. Bon. Communauté, j'ajoute ça dans le raisonnement, communauté est à chaque fois avec son nom propre et ou son nom de lieu. France est le nom d'une communauté, Allemagne est le nom d'une communauté, etc., etc. Hein? Communauté est à chaque fois avec son nom propre ou son nom de lieu, le nom de l'instance qui résulte de ce remplacement. État, en revanche, ou je ne sais pas pourquoi je dis en revanche, hein, communauté me semble être à chaque fois avec son nom propre ou son nom de lieu le nom de l'instance qui résulte du remplacement des banales significations par le fait je vous signifie, nous vous signifions, nous, la communauté vous signifie un certain nombre de choses. Elle vous oblige, en conséquence de votre participation ou de votre adhésion à cette communauté à un certain nombre de choses. Elle vous signifie des choses. Voilà. Elle nous signifie des choses. La communauté, donc, est l'instance qui résulte du remplacement des communs. État est le nom de l'instrument en principe non autonome. Alors, c'est justement une question. Quand l'État s'autonomise, il excède la politique. Voilà. Je pense que les États, enfin moi, ce qui m'a occupé comme ça, un peu derrière la tête dans ce séminaire, c'est évidemment la période nazie. Je pense que dans cette période, il y a excès. La politique est excédée. Là aussi, laissez tourner cette phrase dans vos esprits. Il y a excès de la politique. La politique est excédée, c'est l'État qui s'autonomise par rapport à l'idéal, en tout cas, de la politique, je dirais, plus que jamais. Mais en principe, disons, quand ça va pas trop mal, c'est pas idéal, mais quand même, l'idéal reste un peu dans nos esprits, quand ça va pas trop mal, l'État, en principe, n'est pas autonome par rapport à la politique. Il n'est que l'administration de l'instance qui tient lieu du commun, qui tient le lieu du commun, qui s'appelle la communauté, et qui a un nom, qui a le nom d'un territoire, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Je suis clair, à peu près ? Bon. Donc, en principe, État est l'instrument non autonome qui administre, la politique de la communauté, hein, et qui, en tant qu'il administre, se trouve auprès d'elle, ad, en latin, c'est-à-dire auprès de la communauté, mais valant moins qu'elle, minis, l'administration, l'État ne vaut pas autant que l'instance communautaire, en principe. Voilà. Quand on n'est pas trop loin de l'idéal politique. En principe, l'État réalise ce que la communauté signifie. On pourrait dire qu'il y a une instance, appelons-la la communauté, qui signifie un certain nombre de choses. Comme je te signifie quelque chose, c'est un peu un ordre quand même. Je te signifie, il faut faire, quoi. Je te le signifie. Ouais. La communauté signifie des choses à l'État qui administre, c'est-à-dire qui réalise. Moi, je prends toujours ce verbe réaliser en parlant latin, res, faire devenir quelque chose. Hein, réaliser. Voilà. Qui traduit en opération concrète, comme on dirait, en chose, ce que la communauté, l'instance communautaire, lui a signifié. Voilà. Alors, la question, je crois, enfin, la question qu'on pourrait appeler couramment la question politique, pas au sens idéal du terme, mais la question politique au sens le plus assez courant du terme, c'est de savoir comment, je crois que c'est ça la question, comment la communauté peut-elle, alors j'ai mis sur mes notes, ne pas se laisser aller à l'État. Comment, c'est, au fond, ça veut dire que comment est-il possible que l'État soit commandé et non pas qu'il soit autonome, c'est-à-dire commandant de par lui-même. Comment est-il possible, au fond, que l'État ne demeure dans la zone administrative qui est en principe la sienne et que par conséquent il soit commandé, voilà, par quelque chose, par une instance dont le nom convenant est communauté. Comment la communauté, ce qu'on appelle la communauté, ce qu'on pense sous ce nom-là, ou ce qu'on croit qu'on pense sous ce nom-là, comment est-ce qu'elle peut ne pas se laisser aller à l'État? Comment est-ce qu'elle peut, au contraire, en venir à signifier quelque chose à l'État par quoi, en principe, elle se trouve administrée? Comment est-ce qu'on peut penser qu'il soit signifié quelque chose à l'État? Alors, si on peut réussir à répondre à cette question, alors on sait ce que c'est la communauté. La communauté, c'est ce qui signifie quelque chose à l'État. Mais comment c'est possible qu'à l'État, il soit signifié quelque chose? Comment est-il possible que le pouvoir d'État ne soit pas un pouvoir absolu, par conséquent, que l'État soit commandé? Voilà bien, je crois, une question de politique réelle. Comment est-il possible que l'État se tienne dans sa fonction administrative? Voilà bien une question de politique réelle. Cette question, je crois, revient à savoir comment l'État, dès lors que, et puisqu'il a lui-même lieu, peut ne pas être abandonné à son inertie, c'est-à-dire à l'autonomie, et comment donc il peut être lui-même commandé. Pour nous tous, la situation d'un État autonome, qui serait autonome, absolument commandant, est ou serait la catastrophe de la politique, et ce que, avec un vieux mot grec que j'emprunte à Platon, qui lui donnait un sort tout à fait particulier, je pourrais appeler ça stase, la catastrophe. La catastrophe chez Platon, c'est lorsque, par exemple, le déluge, lorsque les eaux envahissent la terre et qu'on ne fait plus la différence entre la terre et les eaux, c'est la catastrophe, hein, quand il n'y a plus de différence. Autrement dit, quand l'État, il n'y a plus de différence entre l'État et la communauté qui, par hypothèse, le commanderait, c'est la catastrophe. Hein. Et la catastrophe, c'est mot que Platon utilisait, la stase. Voilà, quelque chose prend la place d'autre chose, etc. Bon, peu importe. Je reprends mon raisonnement. Pour nous tous, la situation d'un... Pour nous tous, mais pas... Je dis bien pour nous tous. C'est la catastrophe pour nous tous que l'État devienne absolument autonome. Mais pour certains d'entre nous, donc pas nous tous, c'est pas la catastrophe, nécessairement. Je vais pas trop vite. Ça va encore? Oui. Bon. Il vaut mieux pour nous tous, la situation d'un État autonome absolument commandant est ou serait la catastrophe de la politique. Il vaut donc mieux, même si ça n'est pas idéal, et j'insiste, même si ça n'est pas idéal, qu'existent des procédures capables de tenir et d'assigner l'État. Que l'État ne soit pas absolu, par conséquent. Et il faut qu'il y ait par conséquent des procédures capables d'assigner l'État, l'administration de la politique, etc. Mais alors la question, je crois, de l'autonomie du commandement se déplace. S'il vaut mieux qu'il y ait une instance communautaire pour commander à l'État, qu'est-ce qui rend cette instance communautaire elle-même, ou qu'est-ce qui rendrait cette instance communautaire elle-même convenante ? Alors même que, comme j'ai dit, elle remplace le « nous tous », cette instance, comment pouvons-nous faire qu'elle ne se livre pas à l'État et qu'elle ne passe pas toute à l'administration autonome de nous ? Comment faire, autrement dit, pour qu'elle ne se passe pas toute, sinon de nous tous, du moins de nous, dans notre plus grand nombre ? comment faire pour que, entre la communauté et nous, il n'y ait par conséquent pas de distance. Il s'agit que nous ne pensions pas d'emblée, je crois que c'est ça l'enjeu. Il s'agit... non, excusez-moi, j'ai sauté des lignes dans mes notes, pardon. Comment faire, autrement dit, pour que l'instance communautaire ou l'instance qui prend à sa charge le nom de la communauté, comment faire pour qu'elle ne se passe pas toute, sinon de nous tous, du moins de nous, dans notre plus grand nombre. Ma réponse, dans le cadre du séminaire actuel, tient sans doute à l'idée suivante. Il s'agit d'abord que nous, chacun où il est, existant comme il peut, il s'agit donc que nous ne laissions pas partir l'idée de politique elle-même du côté de l'autonomie. Je pense que pour commencer, pour éviter que l'État ne devienne absolu, si vous voulez, il faut, pour commencer, c'est ça ma réponse, c'est tout simple, si j'ose dire, que chacun d'entre nous, là où il est, comme il peut, existant comme il peut, ne laisse pas partir l'idée de politique elle-même du côté de l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire laisser partir l'idée de politique du côté de l'autonomie ? Ça serait la laisser partir du côté eux, les politiques, et nous, on n'y peut rien. Vous voyez ? Et par conséquent, l'État, qui est l'administration de la politique, si en plus on en rajoute, si j'ose dire, une couche, devant la puissance de l'État, on n'y peut rien, nous. Voilà. Il faut que chacun d'entre nous parvienne à penser, je pense que ça sera mon idée, si vous voulez, que chacun d'entre nous parvienne à penser que la politique n'est pas autonome, et autrement dit qu'elle dépend de nous. Ouais. Est-ce que nous le pensons vraiment, ça ? Est-ce que nous en sommes vraiment convaincus que la politique se tient à nous, qu'elle ne nous est pas étrangère ? Autrement dit qu'en effet, nous sommes voués à nous gouverner nous-mêmes. Est-ce que nous pensons ça sérieusement ? Est-ce que nous admettons ça autant que peut-être il faudrait ? Il s'agit que nous ne pensions pas d'emblée la politique comme une autonomie. Alors je fais un petit glissement dans le raisonnement. Il s'agit que nous ne laissions pas partir l'idée de politique elle-même du côté de l'autonomie. Il s'agit que nous ne pensions pas d'emblée la politique comme une autonomie. Parce que je déteste ce mot, un acteur politique, un citoyen, ça devrait penser, selon moi, que la politique n'est pas une autonomie. Autrement dit, qu'elle dépend... qu'elle est liée à un certain nombre de facteurs qui ne sont pas d'emblée des facteurs politiques. Plutôt, pour le dire mieux peut-être, il s'agit que nous ne pensions pas la gouverne substantiellement anarchique de l'humanité comme vouée à relever d'une politique qui serait donc autonome dans son principe, dans son déroulement, dans ses modalités, etc. Je précise... L'idée que la gouverne soit immanente est bien, dans mon esprit, à la source de l'idée de politique, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais ça n'implique pas pour autant que cette gouverne soit toute politique. L'idée que la gouverne de l'humanité soit immanente à l'humanité n'implique pas que la gouverne soit toute politique. C'est-à-dire qu'il y a de la gouverne qui n'est pas déjà, si j'ose dire, ou pas d'emblée politique, par rapport à quoi la politique n'est pas autonome. Et ça n'implique pas non plus que la politique soit habilitée à transcender les éléments de gouverne qui ne sont pas a priori politiques. L'état de la politique dépend à la fois de faits, de gestes, de significations, bref, de dispositifs gouvernants, et à la fois de l'état dans lequel nous, considérée comme résultante des uns et des autres, nous sommes par rapport à ces dispositifs. Dans la gouverne, l'humanité est vouée à se gouverner elle-même. Dans la gouverne de l'humanité, il y a des faits, des gestes, des dispositions, des dispositifs qui ne sont pas politiques, mais qui, j'avais utilisé ce verbe la dernière fois, influent sur la politique. Et il faut prendre ça en compte. Voilà. Et il faut prendre ça en compte, ça veut dire qu'il faut que nous pensions que la politique est liée à l'état de ces faits, de ces gestes, de ces dispositions, de ces dispositifs, à notre état par rapport à ces faits, à ces gestes, à ces dispositifs. Et cet état dont je suis en train de parler, avec un petit « e », ça n'est pas déjà un état politique. C'est un état par rapport à des faits, des gestes, etc., des dispositions et dispositifs qui tendent à gouverner l'humanité par elle-même, sans que ça soit déjà de l'ordre du politique. Autrement dit, il y a du pré-politique qui se lie au politique, où la politique doit être pensée comme liée à du pré-politique. La gouverne n'est pas toute politique. La gouverne de l'humanité par elle-même n'est pas toute politique. Je crois que je pense ça, et je crois qu'il fallait que je le reprécise, ou que je le redise. Les faits, je vais essayer peut-être d'être plus précis, ou vous me ferez parler en discussion tout à l'heure si ça vous semble utile. Les faits, les gestes, les significations, les dispositifs gouvernants dont je viens d'évoquer abstraitement, pour le moment en tout cas, l'existence, ils sont, en tant qu'ils effectuent des dispositions, ils sont à la fois potentiellement despotiques et à la fois impolitiquement signifiés. Il y a toute une série de faits, de gestes, de significations, de dispositifs qui sont potentiellement despotiques et à la fois impolitiquement signifiés. Et justement, peut-être que la politique dans son idéal consiste à signifier politiquement ce qui ne l'est pas, ce qui est signifié mais pas politiquement, hein, et en même temps à faire quelque chose, disons, ou à décider quelque chose pour que la tendance, la potentialité despotique des dispositifs gouvernants ne tombe pas effectivement du côté du despotisme. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair, il y a à prendre en compte le fait que les dispositifs gouvernants, j'ai parlé de ça la dernière fois, en principe, j'ai conclu la séance là-dessus. Les dispositifs gouvernants, en tant qu'ils effectuent des dispositions, sont certes potentiellement despotiques et à la fois impolitiquement signifiés, mais il importe, et c'est le point sur lequel je discute l'interprétation donnée par Agamben à la notion foucauldienne de dispositif, il importe de penser ces dispositifs gouvernants comme ouverts et de travailler à leur ouverture. Cette perspective suppose à son tour de faire valoir, c'était ça l'idée à laquelle j'étais parvenu un peu rapidement la dernière fois, cette perspective suppose à son tour de faire valoir une certaine idée de désertion et d'envisager la condition de possibilité de cette désertion. Dans la vie, pour parler simplement, dans la vie quotidienne, nous avons affaire à des dispositifs qui, en fait, gouvernent déjà, orientent déjà, dirigent déjà, hein, gouverner, gouvernail, prendre une direction, etc. Nous avons affaire à des dispositifs qui sont, en fait, pour moi, des dispositifs moraux, au sens où morale et mœurs sont des mots de même famille. Ce sont des dispositifs qui nous font les mœurs, avec lesquels nous nous faisons des mœurs. Voilà. Donc ce sont des dispositifs moraux. Ils ont une tendance gouvernante, ils ont une tendance despotique, et il importe de penser que nous pouvons déserter cette tendance-là, pré-politique. Voilà. Et que peut-être justement la clé d'une politique qui ne virerait pas mal, si vous voulez, hein, qui ne s'abandonnerait pas à la puissance de l'État, etc., c'est que nous ayons, par rapport à des dispositifs qui entourent nos existences quotidiennes, qui en même temps font nos existences quotidiennes comme elles sont, que ces dispositifs, certes, toujours doté, c'est ce que je crois penser Foucault, et que Agamben accentue, à mon avis, excessivement, certes doté d'une capacité à disposer de nous, donc despotique. Voilà. Il importe de les penser, il importe de penser qu'aucun dispositif, pour le dire de façon excessive, aucun dispositif n'est en soi absolument tyrannique. Voilà. Potentiellement despotique ne veut pas dire effectivement... Et donc il importe de pouvoir se dégager, c'est ça que j'appellerais désertion, et d'abord il importe de penser que c'est possible. C'est ça que je reproche à Agamben, c'est de nous pousser à penser que ça n'est plus possible de sortir des dispositifs. Et je pense qu'on serait aujourd'hui devant plein de choses qui nous font des vies différentes d'avant, mais qui disposent de nous. Il y a un pessimisme qui s'accommode de la tendance despotique de ces dispositifs. Et j'essaye de penser contre ça. J'essaye de penser que nous pouvons toujours déserter même les dernières dispositions en vigueur dans le monde, aussi capable soit-il, ce monde-là, de s'abandonner aux tendances despotiques des dispositifs gouvernants pré-politiques. Bon, ça ne fait pas du langage simple, tout ça. En principe, c'était la note intermédiaire pour clarifier les choses entre la séance précédente et celle-ci. Bon, alors... tant pis pour moi si c'est pas clair. Et passons à la séance du jour. Voilà. Alors, je pense que le séminaire de cette année, je me suis rendu compte, c'est en fait une série de points de vue sur quelque chose qui doit être à peu près central pour le séminaire, qui doit à peu près avoir rapport à la notion d'émancipation, mais sans l'avoir jamais vraiment affronté clairement et sans avoir jamais... organiser autour de ça le déroulé d'un discours qu'on pourrait dire conséquent, hein, qui aurait nécessairement un début, un milieu, une fin, etc. Non, je pense que j'ai produit un certain nombre de cadrages. Donc je vous propose le sixième pour cette année, et peut-être, je peux dire, j'essaierai l'année prochaine de trouver le fil. Bon. Donc, je vais parler ce soir, pour commencer, de la Déclaration des droits de 1789. Ça semble en rupture avec ce que j'évoquais les fois précédentes, ou même la note intermédiaire que je viens de dire. Et cependant, je pense que vous allez voir que c'est quand même des mêmes choses dont il est question, les mêmes sujets dont il est question. La Déclaration des droits de 1789... fait place à la notion de sûreté, dont j'ai maintes fois dit dans ce séminaire que je parlerai, et donc je vais un peu le faire ce soir. La Déclaration des droits de 1789 fait place à la notion de sûreté, je vais y revenir, mais elle fait aussi, et je pense que c'est lié, dans son article 2, droit inaliénable et sacré de la résistance à l'oppression. Et ça va être mon sujet, en fait, de ce soir. Le droit à la résistance à l'oppression, qui, en fait, est la définition de la sûreté. Pas de la sécurité, hein, mais de la notion historique de sûreté. Donc, c'est important. La Déclaration des droits de 89 fait place à la sûreté, et aussi, dans son article 2, droit inaliénable et sacré de la résistance à l'oppression. Alors, il y a un livre que j'ai lu plusieurs fois, qui me laisse à méditer beaucoup, et c'est pas se laisse à méditer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le lis, je retrouve quelque chose à méditer. Hein. C'est un livre de Sophie Vanish, qui s'intitule « La liberté ou la mort », et qui a été publié aux éditions de La Fabrique en 2016. Sophie Vanish, dans ce livre-là, traitant de la position des thermidoriens. Alors, les thermidoriens, ça, je vous avais demandé de réviser ce que vous avez tous fait, naturellement, depuis les 15 derniers jours. Donc, les thermidoriens, c'est ceux qui ont liquidé Robespierre, pour dire les choses rapidement, hein, qui ont mis fin, on est en 94, à la révolution, au cycle révolutionnaire, et qui ont ouvert la voie à... comment dire ça le monde qui va ensuite faire de la place à un certain Bonaparte, puis Napoléon, etc., et qui va engendrer la société bourgeoise du 19e. Donc à un moment donné, j'ai une expression en tête que je ne vais pas dire parce que je suis enregistré, donc... Non. Les Terminoriens ont mis fin à l'acmé révolutionnaire. 94, hein, d'accord. Donc, traitant de la position des Terminoriens, Sophie Vanisch note que ces éléments-là, que je viens de rappeler, la notion de sûreté dans la déclaration de droit de 89 et le droit inaliénable et sacré de résistance à l'oppression, elle note que ces éléments sont effacés. Je la cite, là. Ces éléments sont effacés par les rédacteurs de la Constitution de l'an 3. Donc on est en 94. Ces éléments sont effacés par les rédacteurs de la Constitution de l'an 3. De même, ajoute-t-elle, que l'article 35 de la déclaration de 1793, donc là on est chez Robespierre, qui parlait du devoir d'insurrection. Donc il y a eu des textes à grande portée juridique qui ont ici évoqué un droit inaliénable et sacré de résistance à l'oppression, qui l'ont inscrit en droit, et dans l'autre cas, qui ont fait devoir de l'insurrection. Bon, on a peine à imaginer. Et pourtant, voilà, on est entre 1789 et 1794. Sophie Vanisch précise à la suite, je cite, « Le 5 Messidor, en 3, Boissy d'Anglars prend l'Assemblée à témoin. » Et voici ce qu'il déclare, donc elle cite elle-même le discours de Boissy d'Anglars, le 5 Messidor en 3, « Vous conviendrez, dit-il, donc c'est un Thermidorien, hein, vous conviendrez qu'il est immoral, impolitique. » Je ne peux pas, évidemment, ne pas souligner dans ce discours proprement réactionnaire la liaison entre le champ de la moralité et celui de la politique, puisque je ne cesse de chercher à penser ce champ, cette liaison, cette implication, cette articulation, justement. Vous conviendrez qu'il est immoral, impolitique et excessivement dangereux d'établir dans une constitution un principe de désorganisation aussi funeste que celui qui provoque l'insurrection contre les actes de tout gouvernement. Nous avons donc supprimé l'article 35, qui fut l'ouvrage de Robespierre, et qui, dans plus d'une circonstance, a été le cri de ralliement des brigands armés contre vous. Fin de la citation de Boissy d'Anglas. Donne-nous un autre, Thermidorien. Le 16 Messidor, soit le 4 juillet 1795, lors du débat sur l'article 2, déclare, nouvelle citation, que la commission des 11, les Thermidoriens, n'a supprimé à l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 que l'énonciation du droit de résistance à l'oppression qui lui a paru présenter trop de dangers et ouvrir la porte à trop d'abus. Donc, si je suis clair, fin de citation de Sophie Vanisch. Je viens de citer, et elle, grâce à elle, hein, deux discours qui ferment la période révolutionnaire et qui posent comme abus impossible, immoral, impolitique, contradictoire à l'idée même de droit, d'inclure dans un texte juridique le droit de résistance à l'oppression. Est-ce que vous voulez que je relise les deux discours pour que les choses soient claires, ou est-ce que c'est suffisamment clair? Je relis? Oui? Oui. Bon. Donc, le 5 Messidor en 3, Boissy d'Anglas prend l'Assemblée à témoin. Vous conviendrez qu'il est immoral, impolitique et excessivement dangereux d'établir dans une constitution un principe de désorganisation aussi funeste que celui qui provoque l'insurrection contre les actes de tout gouvernement. Donc, exit le droit d'insurrection. Nous avons donc supprimé l'article 35 qui fut l'ouvrage de Robespierre et qui, dans plus d'une circonstance, a été le cri de ralliement des brigands armés contre vous. Alors vous, qui est ce vous ? Voilà. Dans le discours compliqué que je faisais dans ma note lumière tout à l'heure, ce vous, je dirais que c'est l'instance de la communauté. C'est ce que j'appelais l'instance de la communauté. L'assemblée délibérative qui fait les lois. Voilà. Alors vous, vous n'êtes pas les mêmes que ceux à qui on a accordé le droit d'insurrection à tort, puisque donc il faut maintenant le supprimer, etc. C'est des textes qui sont finalement, si on les lit bien, extrêmement précis. Hein. Donc il est absurde qu'une communauté fasse valoir dans son droit le droit d'insurrection. Voilà ce qu'il dit. Voilà. Et c'est un discours, j'ai dit, proprement réactionnaire, au sens où réactionnaire veut dire on revient en réaction sur quelque chose qui a été ouvert à un moment donné et qui s'est appelé, pour aller vite, disons, le droit d'insurrection ou droit de résistance à l'oppression et ou sûreté. Voilà. C'était ça, la sûreté. Mettre le peuple en sûreté, ça voulait dire lui donner le droit de se révolter contre l'oppression, si oppression il y a. Hein ? Alors Sophie Vanish commente, et je relis une dernière fois l'autre déclaration, celle de Donou, de 95. La commission des 11, dit-il, n'a supprimé à l'article 2 de la déclaration des droits de 89 que l'énonciation du droit de résistance à l'oppression qui lui a paru présenter trop de dangers, ouvrir la porte à trop d'abus. Donc, il dit, on n'a pas fait grand-chose, on a toiletté juste la Constitution de 89, on a enlevé, bon, c'est une bricole, le droit de résistance à l'oppression. Le droit de résistance à l'oppression. C'est-à-dire que la résistance à l'oppression n'est plus inscrite en droit, comme un droit. Sophie Vanish commente ces événements en écrivant, je la cite, que ce qui avait fondé la légitimité juridique du mouvement révolutionnaire est ainsi devenu intolérable. Je parlerai pour ma part, si vous voulez bien, d'un retournement de la politique, à ce moment-là, contre l'idée ou l'idéal qui s'en était formulé dans la période extraordinaire, par définition, de la Révolution. Ce qui a été éminemment politique, en 1789, est jugé, vous venez de l'entendre, impolitique. Impolitique. C'est-à-dire que la politique de la communauté se remettant de son moment extraordinaire, éminemment politique, la politique de cette communauté, c'est de juger impolitique ce qui a été éminemment politique dans la période révolutionnaire. Hein. C'est-à-dire de dire l'idéal de la politique, c'est pas la politique. La politique réelle, c'est la politique qui ne peut pas inscrire dans son droit la résistance à l'oppression, le droit d'insurrection, etc. Hein, voilà. Donc je dirais que il y a un retournement de la politique contre l'idée ou l'idéal qui s'en était formulé dans la période extraordinaire par définition de la Révolution. Ce qui a été éminemment politique est jugé désormais, comme vous l'avez entendu, impolitique. En substance, le droit d'insurrection contestait la transcendance des institutions gouvernementales. Et je pense que ça reste vrai. S'il y avait un droit de l'insurrection, il contesterait par le fait même la transcendance des institutions gouvernementales, c'est-à-dire ce qui parle au nom de la communauté pour nous, au nom de nous. Voilà. Pour en comprendre la nature du droit d'insurrection, parce que c'est ça évidemment la question, je pense que vous attendez maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le droit d'insurrection ? Qu'est-ce que ça veut dire insurrection ? Pourquoi ils se sont acharnés à discuter de ces choses-là ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, pour comprendre, à mon sens, hein, une proposition que je fais ce soir, pour comprendre la nature du droit d'insurrection, il faut d'abord, je crois, ne pas le confondre avec ce que serait ou ce qu'aurait pu être un droit à l'émeute. Je pense justement que c'est, dans la tête des thermidoriens, ils confondent insurrection et émeute. Voilà. Alors, je trouvais intéressant de revenir sur ces sujets parce que, s'il faut que je le dise, émeute est quand même un mot qu'on a beaucoup employé ces derniers temps quand on a parlé de l'émeute des quartiers donc de ce que moi j'appelle les faubourgs, hein, les banlieues, etc. Je vous renvoie à la séance d'il y a 15 jours. Il y a quand même un lien entre mes séances, malgré tout. Voilà. Bon. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre insurrection et émeute. Je propose de construire une différence notionnelle entre ces deux termes, l'insurrection et l'émeute. Voilà. Qu'un insurgé soit nécessairement un émeutier. C'est la pensée du retour à l'ordre ordinaire. C'est la fin de la révolution qui le dit. Elle qui a aussi, et pour la première fois dans l'histoire, parlé de terreur et de terrorisme. C'est là que c'est venu, hein, ce vocabulaire. Voilà. Ceux qui ont pour la première fois dans l'histoire parlé de terreur et de terrorisme sont aussi ceux qui ont confondu émeutier et insurgé. Voilà. Et qui ont assuré le retour à l'ordre ordinaire de la politique, qui ont mis fin au moment extraordinaire de la politique qu'aura été la période révolutionnaire. Le moment, plutôt, il faudrait dire, révolutionnaire. Je crois qu'il est une définition que je dirais en quelque sorte plus calme ou moins émue, hein, puisque c'est les mêmes mots, hein, émotion, émeute. Ému, émotion, émeute, ému. Il est une définition en quelque sorte plus calme ou moins émue du droit d'insurrection et capable de correspondre à la pratique, je crois, qui fut un temps celle des révolutionnaires. Il s'agit de ne pas laisser au seul gouvernement stricto sensu l'initiative en matière d'ordre du jour de l'Assemblée délibérante. Mais qu'est-ce que c'est qu'un insurgé ? C'est quelqu'un qui... Ou qu'est-ce que c'est qu'un ensemble d'insurgés ? C'est un ensemble de gens qui ne laissent pas au seul gouvernement stricto sensu l'initiative en matière d'ordre du jour de l'Assemblée délibérante, mais qui permettent à des pétitionnaires d'intervenir sur cet ordre du jour et d'y entrer non pas tant leur doléance que leur supplique ou leur revendication. Alors je fais là dans cette phrase que j'ai sous les yeux, je vais la relire tranquillement, toute une distinction de termes que je vous propose. Qu'est-ce qui était en jeu ? La possibilité pour ceux qu'on pourrait appeler les insurgés, et qui n'étaient pas nécessairement des émeutiers, de venir dans le lieu de l'Assemblée délibérante, et non pas d'imposer ce qu'ils pensaient, si toutefois ils pensaient quelque chose d'à peu près ordonné, mais d'ouvrir un ordre du jour. De dire « vous allez discuter de ceci ». Ça, c'est, je crois, enfin, moi, ce que je comprends de ce que j'ai lu de cette période-là, des livres d'historiens que j'ai lus sur cette période-là, c'est, pour moi, c'est ça que ça voulait dire « insurgé ». Voilà. C'est la possibilité d'intervenir sur l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante. Voilà. En faisant quoi ? En apportant des pétitions. On est loin de l'émeute, au sens banal du terme. En apportant des pétitions, et qu'est-ce qu'il y a dans ces pétitions ? Alors là, il y aurait beaucoup à discuter, parce qu'on vient d'avoir, enfin, au moment des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre président de la République a proposé que soient rédigés des cahiers de doléances. Ça rappelle quelque chose, puisque précisément, les cahiers de doléances, c'est par là que ça a commencé, la révolution de 89. Mais qu'est-ce que c'est une doléance ? Qu'est-ce que ça veut dire, doléance ? Voilà. Ça veut dire, on fait état de ses souffrances. C'est ce que veut dire le mot en latin. Voilà. On dit, voilà, on souffre de ça. Et on fait un état de « ça va mal là, j'ai mal là, etc., ça va mal là ». C'est pas la même chose si vous dites « revendication ». Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fallait amener dans les pétitions, hein, des doléances, des revendications, des suppliques. Alors, vous avez tout un vocabulaire. La supplique, c'est « je supplie, je vous supplie voilà. ».« Je revendique », c'est pas la même chose que « je supplie », c'est pas la même chose que « je souffre voilà. ». Donc c'est ça les questions, je pense, que moi je lirais à une définition aussi conceptuelle que possible. Je ne dis pas que dans l'histoire ça se passe comme ça, de ce pourquoi je dis, en fait, pour comprendre cette affaire de droit à l'insurrection, etc., il faut commencer par comprendre qu'une insurrection, c'est pas une émeute, qu'un insurgé, c'est pas un émeutier. En fait, un insurgé, c'est quelqu'un qui, alors, apporte à l'Assemblée délibérante, soit sur le mode de la doléance, soit sur le mode de la supplique, soit mieux, à mon sens, sur le mode de la revendication, les conditions d'un ordre du jour, vous allez discuter de ça. Donc, par votre intermédiaire, nous allons discuter de ça. La position thermidorienne, c'est l'inverse. La position thermidorienne rend au seul tenant de l'instance gouvernementale, au pilote, à ceux qui tiennent la barre, le droit de décider du discutable en droit, de ce qu'on va mettre à l'ordre du jour. Ce que disent les thermidoriens, c'est que la responsabilité de l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante doit appartenir au gouvernement, à ceux qui gouvernent, aux pilotes. Et pas, et tous ceux qui ne sont pas là et qui viendraient, les insurgés, dire « Vous allez mettre à l'ordre du jour ceci et cela hein, », ceux-là sont des émeutiers. Et comme confondus avec des émeutiers, et par conséquent... le gouvernement a le droit, d'une certaine manière, à l'autodéfense et à on va dire, exclure de la parole politique, pour le moins, ces insurgés pensés comme des émeutiers. La position thermidorienne rend au seul tenant de l'instance gouvernementale, au pilote, à ceux qui tiennent la barre, le droit de décider du droit positif, c'est-à-dire de ce qui peut faire positivement droit. D'une certaine manière, il me semble que cette position est tragique, car la position des thermidoriens, car c'est déjà la politique de Créon, la position pardon de Créon dans l'Antigone de Sophocle. Tu ne mettras pas à l'ordre du jour, etc. Mais ce qui est en l'occurrence remarquable, alors si jamais c'était compliqué ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça ne va pas s'arranger dans la période qui vient. Là, j'ai un petit moment d'argumentation un peu délicat, me semble-t-il. Donc je vous préviens. Ce qui me semble remarquable, c'est le déni qui travaille la position des thermidoriens et qui n'était pas, lui, dans l'esprit de la tragédie. Parce que justement, s'il y a tragédie, c'est parce qu'il y a deux positions quant à la politique, pas seulement... des positions internes à la politique, mais des positions quant à ce que c'est, quant à sa compétence, qui s'oppose et qui s'oppose ouvertement. Alors qu'avec les thermidoriens, on a une position politique qui s'oppose, mais qui s'oppose dans un déni. Voilà. Et ça, c'est pas tragique. C'est extrêmement problématique, mais c'est pas à proprement parler tragique. Déni. Donc je vais essayer d'expliquer ça autant que je peux. Je pense que dans la position thermidorienne s'active un déni. Déni, ça veut dire qu'on refuse d'admettre ce que pourtant on repère. Vous connaissez la phrase fameuse qui définit le déni, « Je sais bien, mais quand même ». Voilà. Ce qui est dit, en l'occurrence, ce n'est pas ce que disent les thermidoriens, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas matière à exiger la sûreté. Alors, si vous suivez, évidemment, avec les dénis, je vais être obligé de faire des doubles négations, ça va être compliqué à écouter pour vous, je sais bien. Mais quand même, je veux continuer. Bon. Ce qui est dit, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas matière à exiger la sûreté. Autrement dit, ce qui est dit, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'oppression. Ils ne le disent pas. Voilà. Ils ne disent pas non plus qu'il y en a. Voilà. Ce qui est dit, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas matière à exiger la sûreté, à résister à l'oppression et à s'insurger. Ce qui est dit, c'est que quand bien même il y aurait cette matière, elle ne saurait être un élément dans le droit. Quand bien même il y aurait matière à résister à l'oppression et à s'insurger, ça ne saurait être un élément dans le droit. Je pourrais vous relire la déclaration de Boissy-d'Anglars, ce que je disais tout à l'heure. Et vous y trouveriez, je crois, ce que je suis en train de dire là. Ça ne saurait être un élément dans le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le mot oppression ou résistance à l'oppression dans le droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais ça ne peut pas être matière à affirmation juridique. Voilà. Elle ne saurait être un élément dans le droit si jamais elle existait, cette matière-là, résistance à l'oppression, insurrection, etc. Ça ne saurait être un élément dans le droit, ni par conséquent être ce avec quoi s'affirme ou se positive la politique conçue comme ce qui attache d'arrêter le droit ou de dire le droit. En clair, si vous voulez, l'affirmation du droit et de la politique telle que conçue par les thermidoriens ne veut pas faire son élément d'une oppression dont quand même, en creux pour ainsi dire, elle n'exclut pas l'existence. Elle n'exclut pas qu'il y ait de l'oppression, elle ne dit pas non plus qu'il y en a, mais elle n'exclut pas qu'il y en ait, elle dit si jamais il y en a, ça ne peut pas être traité dans le droit. C'est ça la position thermidorienne. Donc il y a peut-être d'autres positions, naturellement, que la thermidorienne. Elle la connaît, je reprends ma phrase, la position... L'affirmation du droit et de la politique telle que conçue par les thermidoriens ne veut pas faire son élément d'une oppression dont quand même en creux, pour ainsi dire, elle n'exclut pas l'existence. Elle la connaît, l'oppression, sans la reconnaître. Et c'est ainsi qu'elle la renvoie du côté du pré-juridique et du pré-politique. La solution qu'elle propose est en fait la dissolution dans l'énoncé des droits d'un problème qui ne peut plus se poser qu'au dehors de ses énoncés. Pareille solution marque, je crois, une défaillance de la politique à l'un de ses principes possibles, celui qui ne ferait pas droit, en particulier pas droit civil, à l'oppression. La défaillance de la politique à l'un de ses principes possibles, qui est le suivant, ne pas faire droit à l'oppression. Cette défaillance fait miroir à la solution apparemment inverse de l'excès totalitaire dont je faisais état dans une séance précédente, excès où non pas la politique mais un régime de lieutenance politique admet de faire de l'oppression sa tendance. Je vais clarifier, je crois, dans quelques secondes. Voilà. Je suis en train d'essayer d'établir... par toutes ces phrases, une espèce de gradation entre l'idéal de la politique, appelons-la pas trop mal, voilà, et puis quelque chose qui excède la politique et la justification de cette distinction, elle est liée au sort fait à la notion d'oppression, à sa reconnaissance ou non dans les opérations auxquelles peut en droit accéder ce qu'on peut appeler un gouvernement. Bon, je reprends, je pense que je suis en train de discuter une solution qui marquerait la position des thermidoriens, qui marquerait une défaillance de la politique à l'un de ses principes possibles, celui qui ne ferait pas droit à l'oppression. Et il me semble que cette défaillance fait miroir à la solution apparemment inverse, l'excès totalitaire, où non pas la politique, mais un régime de lieutenance politique, puisqu'il y a excès de la politique, c'est plus un régime politique, c'est un régime excessivement politique, si vous voulez, admet de faire de l'oppression sa tendance. Nous retrouvons là, je crois, ce que nous envisagions déjà lorsque nous lisions, lors de la deuxième séance, Jean-Louis Alperin, si vous vous en souvenez, hein, Histoire mondiale des droits. Si le droit véritablement constitué doit impliquer, ainsi que le disait Alperin, je le cite encore une fois, une ou plusieurs règles de changement pour permettre et organiser la procédure visant à remplacer des règles primaires, alors si le droit change... S'il y a toujours de la politique pour acter d'énoncés nouveaux, c'est parce qu'il y a toujours en reste des normes, des règles, dit Alperin dans la phrase que j'ai lue, mais c'est la même notion. Si on pense que norma en latin, norme, veut dire précisément règle. Donc, si le droit véritablement constitué doit impliquer une ou plusieurs règles de changement, alors si en effet il change, s'il y a toujours de la politique pour acter des énoncés nouveaux, c'est parce qu'il y a toujours en reste des normes non légalisées ou non affirmées en droit et cependant efficientes. Vous vous rappelez de ça, peut-être. C'est dans ce reste à l'état de normes et non de droit que se constitue l'oppression. C'est la thèse que je vous propose de soutenir. C'est dans le reste à l'état de normes et non de droit que se constitue l'oppression. Et à partir du moment où elle se constitue dans un niveau préjuridique, et à partir de ce moment-là, il y a forcément un problème en droit. Qu'est-ce qu'on fait de cette norme-là, cette règle-là? Cette norme, cette règle, ça veut dire tout simplement, pour commencer, non pas que c'est bien, mais que ça se fait. Hein, c'est une norme de la vie qui est de l'oppression. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait en droit? Voilà. On reconnaît qu'il y en a, et par conséquent, on admet un droit à l'insurrection, ou on ne reconnaît pas qu'il y en a, et par conséquent, on n'admet pas un droit à l'insurrection. Et il y a une troisième solution, qui est celle excessivement politique, ou qui excède la politique, qui consiste à dire tout simplement, mais l'oppression, c'est l'apanage de l'État. L'État a le droit d'opprimer. Voilà. Il faut envisager cette position excessive. Aussi. Hein. Donc je pense, je suis à peu près clair, qu'il se constitue normalement dans la vie, dans les mœurs. Hein, c'est la norme, voilà. Il se constitue des oppressions hein, qui sont pré-juridiques, hein, c'est qui sont pas et que le droit ne par rapport à quel disons le droit positif est mal à l'aise. Faut-il les reconnaître, pas les reconnaître, voilà. Il y a, alors je pose la thèse simplement, il y a dans les normes existantes, enfin des normes de vie des uns et des autres, il y a de l'oppression à l'état de normes et pas à l'état de droit, qui sont donc en tant que telles non légalisées, non affirmées en droit et cependant efficientes. C'est dans ce reste à l'état de normes et non de droit que se constitue l'oppression. Il ne faut pas le concevoir, ce reste-là, comme un résidu de temps intérieur, ni comme le symptôme seulement archaïque d'un passé plus ou moins lointain que le progrès n'aurait pas encore relevé. Non, de l'oppression non juridique et cependant normée, il s'en constitue sans cesse. Elle provient... Cette oppression non juridique est cependant normée, elle provient régulièrement. Donc c'est pas simplement parce qu'avant on n'était pas assez, on n'avait pas assez progressé. Hein, avant ils ne savaient pas faire, nous aujourd'hui on saurait. Non, des normes de l'oppression non juridique est cependant normée, il s'en constitue sans cesse au fur et à mesure des inventions qui viennent convenir à nos vies. Voilà. L'oppression non juridique est cependant normée, elle provient régulièrement, de la vocation humaine, non pas au seulement vivre, mais comme je dis souvent, à l'exister. Car en effet, la conséquence de cette vocation à l'existence des humains, c'est l'instabilisation des conditions dans lesquelles la vie et l'existence elles-mêmes se produisent. Il en va, comme je ne cesse de le dire ici ou là, pardon, de la modification des suppléments techniques qui constituent ces conditions de vie ou d'existence. En raison de la perfectibilité, pour reprendre une dernière fois à Rousseau son mot, les pratiques auxquelles le vivant en défaut d'origine ne peut pas ne pas recourir ne cessent de changer. Nous sommes bien placés aujourd'hui pour savoir ce qu'il en est de toute cette réalité, nous qui sommes en train de souffrir, c'est-à-dire de supporter ou d'endosser une formidable modification des impedimenta existentiels. Donc, à chaque fois qu'il y a, comment le dire, des nouveautés techniques, et il y en a sans cesse, hein, puisque l'être humain est cet être qui ne peut pas ne pas avoir affaire à de la technicité, à de la technicité et, à de la modification de la technicité. À chaque fois se rejoue la possibilité de normaliser ces inventions, hein, d'en tirer des normes de vie qui ne sont pas exactement des droits, mais par rapport auxquels le droit a à se situer ou accepte de se situer ou pas. Voilà. Se situe, dénie ou au contraire excède, etc. Je vais essayer encore une fois, si je peux, de clarifier ce que je veux dire. La mise aux normes des modifications des impedimenta existentiels. Hein. Alors ça, par exemple, les ordinateurs que nous avons autour de nous pour travailler ce soir, le téléphone que j'ai sous les yeux, etc., c'est des impedimenta existentiels. Hein. Nos mœurs font avec ça aujourd'hui. Voilà. Et certainement, y a-t-il là-dedans, pas simplement des normes techniques, mais des normes pour l'existence, ou pour limiter les existences qui vont avec ces objets-là, etc. Donc je pense, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas penser que c'est clos, cette affaire. N'empêche, ils sont porteurs de normes où autour d'eux, de leur mise en œuvre, s'activent des normalisations. Voilà. La mise aux normes, la normalisation des novations techniques n'est jamais immédiate. Voilà. Nulle invention, par conséquent, n'est en soi, a priori, despotique. Mais elle risque toujours de l'être. Elle offre du champ au despotisme dès lors que dans sa banalisation, elle exclut, en même temps que le sentiment d'eux et chez l'autre, la possibilité pour cet autre de se déterminer selon un principe, le débarrassant en quelque sorte du souci de l'existence. C'est réglé d'avance, et dans ce réglage d'avance, il n'y a pas de place pour le sentiment. Les normes des mœurs qui s'établissent avec l'apparition de modificateurs, de modifications techniques, elles virent du côté du despotisme dès lors que, au lieu de laisser à chacun d'entre nous la possibilité de faire avec ça, j'allais dire comme il l'entend, c'est pour lui réglé d'avance. Alors, je ne sais pas comment dire ça, je pense beaucoup à la façon dont, je ne sais pas comment... Les grandes entreprises de l'informatique aujourd'hui, appelons-les Google ou Microsoft, etc., règlent pour nous d'avance le système d'exploitation, toutes ces choses-là. Et puis même, vous en tiennent informés. Hein, vous disent, Google a débranché pour vous ceci, pour votre sécurité, voyez, etc. Bon, c'est réglé d'avance. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour le sentiment. Voilà. C'est producteur de normes, voilà. Et c'est là que l'oppression se constitue. Posant à terme un problème pour le droit, pour l'énoncé des droits, ou du droit, et aussi pour, par conséquent, pour la politique, en tant que son affaire, c'est de dire le droit. Alors je vais prendre un exemple. Alors l'allusion, dire il n'y a pas de place pour le sentiment, je faisais référence, mais je ne vais pas développer, d'autant que je n'ai pas amené ce qu'il faut pour le faire, puis que c'est long. Je faisais allusion à un passage de mon livre « Petit lexique pour le design », page 127 et suivante, si ça vous dit ce que j'appelle sentiment et pourquoi avoir le sentiment des objets techniques me semble une chose importante. Je pense que la mise aux normes de ces objets-là nous retire le sentiment des objets en question. Je vais prendre un autre exemple pour essayer d'arriver à dire à peu près clairement ce que je souhaite dire ce soir. Celui de l'usine Citroën que décrivait Robert Linhart dans L'établi, livre pour moi fameux, publié aux éditions de Minuit en 1978. Cette usine, telle que décrite par Robert Linhart, qui s'était fait embaucher comme OS dans l'usine Citroën, alors 6 dans le... Je ne sais pas si lui, il était dans l'usine du 15e arrondissement. Il n'était pas dans le 15e. Hein.
Une femme d'une autre qui était dans
Oui, il a été déplacé à un moment donné dans son histoire. Enfin, peu importe. En tout cas, c'était dans Paris. Voilà. Il a décrit, enfin, lisez ce livre extraordinaire, comme un lieu normé, protocolaire, au sens que j'ai trouvé chez Michel Guérin. Alors, le protocole, le protocole, c'est vous n'êtes pas encore. Le protocole entre ambassadeurs. C'est. Voilà, on n'est pas encore dans la négociation, on n'est pas encore dans la discussion, mais il y a toute une série de façons de se présenter, protocolaires, et qu'il faut respecter. Donc, on pourrait dire que les objets ou les situations techniques sont entourées de protocoles. Et le protocole, si vous ne suivez pas le protocole, vous n'aurez pas la discussion. Hein, le protocole, en fait, n'est pas nécessaire. Il est à la fois pas du tout indispensable et absolument vécu comme tel. Voilà. Donc, il décrit l'usine Citroën comme un lieu extraordinairement protocolaire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, sa blouse, il faut la poser là et pas là, etc. Enfin bon. Les raisons d'être sont pas forcément évidentes et sont même pas forcément liées à une efficacité technique. Donc, il décrit l'usine Citroën comme un lieu normé, protocolaire, où les travailleurs ne peuvent ni modifier les protocoles, ni se conduire dans leur travail, se gouverner dans leur travail, ni même seulement apporter la réplique aux agents de l'ordre dans l'entreprise. Donc c'est assez terrible quand il montre comment les agents de maîtrise s'adressent à lui ou à ses camarades OS et ils ne peuvent pas répliquer. C'est pas qu'ils ne peuvent pas au sens ils ont bien les mots pour ça. Mais s'ils répliquent, ils sont pas tout de suite en conseil disciplinaire, enfin, donc ils ne peuvent pas, même la réplique, donc c'est pas discutable. Voilà. Alors que ça l'est, profondément, bien entendu. Voilà. Donc il décrit l'usine, lieu technique comme excellence, comme un lieu normé, protocolaire, où les travailleurs ne peuvent ni modifier les protocoles, ni se conduire dans leur travail, ni même seulement apporter la réplique aux agents de l'ordre dans l'entreprise. Toute une tendance de l'économie, dont celle qui nourrit abondamment la société de consommation, aura poussé, je crois, et pousse encore, à ce que les situations de travail soient réglées d'avance, extérieurement à l'épreuve du travail lui-même. J'ajoute, pour aujourd'hui, qu'avec le commerce par Internet, nous en sommes à un point où même le produit est payé, et je signale que ce paiement vaut acceptation d'une règle, avant d'être perçu à l'échelle de ses dimensions physiques. Hein, vous achetez sur les images, et j'espère que ça vous satisfera. Hein. Mais vous acceptez d'avance, avant même, c'est ça l'absence de sentiment quant à la chose, avant même d'avoir l'objet dans les mains, sous les yeux, etc., par le fait que vous le payez d'avance, ce qui est pas le cas dans le commerce il y a encore quelques années. On peut alors après vous avez toutes les pratiques d'emballage etc qui sont une façon de ne pas laisser l'objet au sentiment de ses futurs utilisateurs. C'est réglé d'avance, c'est le cas de le dire dans tous les cas dans tous les sens de l'expression. C'est payé d'avance, c'est réglé d'avance, c'est voilà. Ce sont des protocoles autour du commerce de l'objet, ce sont pas des nécessités autour du commerce de l'objet. C'est comme ça que ça se passe, selon des normes. Voilà. Mais ce ne sont que des normes, si je peux arriver au bout de ce que j'essaye de faire entendre. Voilà. En définitive, de même que le despote méprise la perspective de l'autre, j'avais défini comme ça lors de la première ou deuxième séance, je ne sais plus, le despote méprise la perspective de l'autre, de même que le despote donc méprise la perspective de l'autre, de même qu'il absorbe le point de vue de cet autre dans la certitude de la raison qu'il a ou qu'il se donne à lui-même, le despote, de même, ce que j'évoque ici sous le nom de norme n'a pas pour finalité la sûreté, mais pour sens, au bout du compte, l'oppression d'un vécu. Oppression, c'est ici, dans mon propos, le contraire de expression. Dans la situation despotique, il y a l'épreuve d'un vécu qui n'est pas parlé alors qu'elle demande à l'être. Pourquoi ce langage ? J'ai l'impression que j'ai travaillé là ce soir avec le fichier qui n'est pas le dernier que j'avais préparé. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'avais clarifié dans la dernière écriture de mes notes à laquelle vous n'avez pas eu droit parce que je n'ai pas le bon fichier. Enfin, je suis désolé. J'espère que ça va quand même. Voilà. Alors pourquoi je parle comme ça ? Je dis l'oppression, c'est le contraire de l'expression. Dans la situation despotique, à l'épreuve d'un vécu qui n'est pas parlé alors qu'elle demande à l'être. Pourquoi parler comme ça ? Je dis qu'à épreuve et non pas expérience, en ce sens que pour rester dans le registre de la métaphore maritime qui m'a servi à définir la notion de gouverne la dernière fois, l'expérience peut être définie comme la sortie ex d'une traversée, périance. C'est ça que ça veut dire littéralement le mot, hein. Être parvenu au bout, à bon port, par exemple, expérience. Je suis sorti, et périance dans le renvoie au vieux mot grec, ça pouvait désigner le sentiment d'être au ras d'une mer tout autour, il n'y a pas de repère, etc. La racine peir, qu'on entend encore dans périance, elle signifie justement qu'on n'a pas d'issue. Voilà, comme dans. Comme dans Apori. L'expérience, c'est justement être ressorti du moment dans lequel on ne sait pas où est le chemin. Voilà. Donc avoir de l'expérience, c'est être ressorti de quelque chose. Faire l'épreuve de quelque chose, c'est être dans le moment où. Enfin, on n'est pas dans la sortie précisément. Hein. Donc je parle de. Je dis que dans la situation despotique, il y a l'épreuve d'un vécu et pas l'expérience de quelque chose. Parce que justement. Il y a quelque chose qui demande à être exprimé et qui ne l'est pas. C'est ça, l'oppression. Voilà. Dans les cas qui m'intéressent, la traversée est en cours, si j'ose dire. On n'en est pas ressorti. Et peut-être qu'on n'en ressort jamais, que c'est sans fin, hein, l'épreuve de l'existence. Que ça ne soit pas parlé, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas parlé, que ça soit, en ce sens, pas mis en discussion, veut dire que ça repose sur un entreprendre dont le principe n'est pas interrogé ni discuté, du moins pas dans les lieux de la politique, plutôt pas jusque dans ces lieux, car il est possible que des ébauches d'expressions soient sur le chemin arrêtées, amorties ou assourdies. Pourtant, il y a demande. Ah oui, non, ça va pas du tout. Hein. Je suis désolé. C'est pas le bon fichier que j'ai sous les yeux. Donc je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais dire Il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie qui est travaillé par le despotisme. Et qui consiste à nous tenir dans l'épreuve d'un certain nombre de choses. Cette épreuve n'est pas une expérience aboutie. C'est pas une expérience qui donne lieu à une expression de ce qu'elle aura, de ce qu'elle aurait été, et qui reste par conséquent dans le contraire de l'expression, à savoir dans l'oppression. Voilà. Mais ce qui nous opprime attend son expression, attend son moment d'expression, attend son heure pour être dite. Etc. Donc, si on admet que la politique, ça consiste à discuter des choses, qui attend d'être politisé, voilà, attend d'être politisé et attend d'être, dans une certaine mesure, reconnu comme opprimante et méritant. Il y a une demande en ce sens. Dans nos vies d'être concernés par les normes qui s'activent autour des impedimenta existentiels, il y a une demande d'expression. Voilà. Il y a oppression, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'expression. Je ne sais pas si j'arrive à dire les choses clairement. Cette demande, elle trouble, cette demande en attente, cette demande d'expression en attente dans les normes existentielle, pré-politique, pré-juridique, etc. Dans cet état-là, il y a une expression en attente, c'est-à-dire je vais le dire autrement, il y a une oppression, c'est-à-dire une expression en attente. Cette expression en attente, elle contient une demande en direction du parler, du dire, de l'expression, hein, du passage de l'épreuve à l'expérience, voilà, en attendant d'être admise en droit, ou que le droit en fasse quelque chose, s'il peut en faire quelque chose, en attendant cette demande d'expression, en attente, dans l'oppression même, elle gêne, elle dérange, elle perturbe, voire, dans la mesure où elle serait, où elle est d'ailleurs, latente, ou sourde, ou assourdie, ou mineure, dans cet état-là, malgré tout, elle heurte les capacités d'entente établies, ou si vous préférez, la disposition, l'état de l'entendre, du bien entendu, de l'écoute acceptée. Je pense qu'il y a parmi nous aussi, comment dire, destinataires d'oppression, soyons-nous, et même en tant que cette oppression existe, les normes, etc., il y a sourde, assourdie, latente, mineure, quelque chose qui est en attente d'expression et qui ne peut pas ne pas heurter ce qu'on entend. C'est assourdi, etc. Ça ne s'entend pas. Ça ne peut pas ne pas heurter ce qu'au contraire on entend et que, je pour finir comme je peux, tout simplement, le bien entendu. Hein, ce qui est bien entendu à un moment donné, autrement dit, ce que je pense, c'est que ce qui est bien entendu à un moment donné, bien entendu, c'est du côté des normes oppressives. Voilà. Et que dans l'oppression même, quelque chose attend son expression. Voilà. Mais le passage à l'expression, ça ne peut pas passer par le bien entendu. Voilà. Ça suppose un mode d'expression qui ne peut pas, je répète mes verbes, troubler, gêner, déranger, perturber, voire, en bout de course, heurter les capacités d'entente établies. D'où peut-être, pour terminer vaille que vaille cette séance compliquée, que je me sois trouvé intéressé par cette question du droit d'insurrection. Comment ça peut advenir? C'est-à-dire comment ce qui attend son expression dans le registre des normes, ce qui est du pré-juridique et du pré-politique, peut advenir dans le champ de la politique et à terme éventuellement du droit, alors que ça n'est pas bien entendu. Voilà. Quelles sont les voies pour que le non-entendu s'entende? Il me semble que ce qui a tourné au moment de la Révolution autour de la notion d'insurrection, pas d'émeute, mais d'insurrection, avait affaire à cette affaire-là. L'insurrection, c'était peut-être ça qu'ils ont essayé de dire et qui a été rejeté au moment thermidorien. L'insurrection, c'est la possibilité de faire entendre du mal entendu. Du mal entendu. Hein, c'est-à-dire ce qui se niche au sein de l'oppression. Et ce qui se niche au sein de l'oppression, c'est une expression potentielle. Mais comment elle passe, comment elle se formule, etc. Voilà les questions. Alors je termine en vrac. Je n'ai sûrement pas répondu à la question « Faut-il s'émanciper ?» Et c'est pour ça que peut-être il faut que vous m'accordiez une année de grâce, au cas où je m'améliorerais. Je ne sais pas, j'ai des doutes quand même, hein. Mais bon. Mais j'avais envie, pour conclure, une conclusion qui n'en est pas une, et j'espère quand même que cette séance aura été un peu cohérente dans son énoncé, même si j'étais un peu perturbé par des problèmes de lecture de mes notes. J'imaginais de vous proposer pour que vous méditiez pendant le printemps qui vient, l'été qui suit, etc., de classer un certain nombre de vocables. Alors en fait, j'ai déjà un peu classé dans la façon dont je vais les énoncer. Mais disons des mots qui sont peut-être pas inintéressants et dont il faudrait examiner la portée et éventuellement l'articulation possible. Alors le premier mot que je vous propose, c'est une conclusion plus que de la séance de ce soir, ça serait pour l'ensemble du propos de cette année, et en même temps c'est pas du tout une conclusion puisque c'est un vrac de suggestions. Donc premier mot, résistance. Alors, question, ne pensez-vous pas que, alors comme j'ai déjà dit, quand on pose des interros négatives comme ça, c'est qu'il faut répondre oui, hein. Vous le pensez bien sûr, vous allez le penser. Ne pensez-vous pas que la résistance, ce qui pourrait la caractériser, c'est le mutisme. La résistance est muette. Donc évidemment, elle ne s'exprime pas, elle n'est pas dans l'expression. La résistance est muette. Alors, je ne sais plus d'où je sors ça, mais j'ai noté ça et je vous prie de m'excuser de ne plus avoir en tête tout de suite la référence exacte. J'ai mis sur mes notes « Voir le mutisme du peuple moral des anonymes » chez Michelet. Donc, j'ai dû lire un texte de Michelet, dont j'ai oublié de mentionner exactement la référence, dans lequel, justement, ce qui caractérise les anonymes, c'est qu'ils ne s'expriment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. Ils sont dans l'oppression, etc. Bon. Et peut-être sont-ils en résistance. Bon, je pensais à ça, le mutisme du peuple moral, dans ses mœurs, des anonymes chez Michelet, mais je pensais aussi à la fameuse expression de Rancière qui me trouble, la parole muette. Une bizarre expression, hein. Qu'est-ce que c'est que cette parole muette? Qu'est-ce que c'est qu'une parole muette? Voilà, parler dans le mutisme. Voilà. Bon, il y aura peut-être quelque chose à voir. Qu'est-ce que c'est que la résistance? Deuxième mot, je l'ai dit en passant ce soir, doléance. Qu'est-ce que c'est qu'une doléance? Alors, est-ce que c'est plus ou moins que ce qui se joue dans la résistance? Je veux dire, est-ce qu'on peut établir finalement les mots que je vais vous donner, là, la liste, en gradation? D'abord, je résiste, ensuite... L'expression commencerait par une doléance. Supplique. Revendication. Insurrection. Et finalement, émeute. Peut-être qu'il y a une gradation, c'est-à-dire le résistant, celui qui a résisté déjà à l'oppression. Et qu'il l'exprime sous forme de doléance, pas de plus sous forme de supplique, un pas de plus sous forme de revendication, un pas de plus sous forme d'insurrection. Là, c'est l'entrée dans le champ politique, dans le champ de la gouverne. Dire vous n'allez pas gouverner sans entendre les points qu'on a à vous dire et vous allez les mettre à l'ordre du jour. Hein. Et puis pas de plus si l'insurrection ne fonctionne pas, ne suffit pas, à ce moment-là, l'émeute, effectivement. Alors ça, c'est le livre de Sophie Vanisch. Hein. En fait, tout son livre est consacré à l'étude des émotions révolutionnaires. Toute l'analyse qu'elle fait de la politique, entre guillemets, de Robespierre, c'est de dire que ça aura été un traitement des émotions populaires. Mais elle donne à émotion un sens extrêmement construit. Donc moi, je mets dans émeute. Voilà. Peut-être que c'est bien hein, d'éviter les émeutes. Mais peut-être que pour éviter les émeutes, il faut reconnaître le droit à l'insurrection. C'est ça mon sujet de ce soir. Peut-être que j'ai réussi avec cette phrase à rendre claire ma séance. Voilà. Et je pensais, et je vais m'arrêter là, je vous promets, ajouter, mettons, au cas où la petite liste de mots ne vous suffirait pas pour vos vacances... d'ajouter qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire de la délinquance, puisque délinquere en latin, moi j'ai écrit un texte une fois au moins, même plus, en fait plusieurs fois, qui est quand même une sorte d'éloge de la délinquance. Alors, entendons-nous bien, hein, comme je suis un idéaliste en politique, je suis aussi un idéaliste sur ce genre de questions. Hein, les délinquants réels... C'est pas ce dont je vais parler à l'instant. Ou plutôt ce qu'on appelle réellement délinquant. C'est pas ce dont je vais parler nécessairement à l'instant, mais quand même, délinquere en latin, délinquere, c'est un verbe avec une préposition, hein, ça veut dire s'absenter. Voilà, c'est le délinquant, c'est celui qui est pas là pour répondre à l'appel au moment où on le commande. Donc ça serait par exemple le déserteur, c'est un délinquant, stricto sensu. Je dois être, j'ai fait mon service militaire, je sais ce que c'est, enfin ça n'a plus de sens cette expression, mais moi je vous assure que j'ai un souvenir de la chose, très vif. Vous devez être à l'appel le matin au garde à vous, etc. Répondre à l'appel, hein, présent, etc. Bon, c'est la même chose quand on faisait l'appel dans les classes, dans les structures disciplinaires. Enfin, Foucault a quand même bien parlé de ce genre de choses. Le délinquant, c'est celui qui manque à l'appel. Et le déserteur, par définition, c'est celui qui manque à l'appel. Quand le gouvernement décrète la mobilisation générale, le déserteur, est celui qui va être un délinquant. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un délinquant ? Est-ce que c'est un résistant ? Est-ce que c'est un insurgé ? Oui, comment on situerait la délinquance par rapport à l'ensemble des mots que je vous ai proposés tout à l'heure ? Et dernière question, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que nous faisons de la grève ? Qu'est-ce que c'est qu'un gréviste ? Voilà. Alors, je vous signale qu'à propos de la grève, alors je m'arrête là, mais j'avais amené, mais c'est trop long, puis... Je suis comme vous, peut-être. Il y a un texte de Benjamin qui date de 1921-22 qui s'intitule « Critique de la violence », qui est aussi un texte sur le droit, sur, la capacité du droit à intégrer ou pas un certain nombre de problèmes, notamment le traitement de la violence. Donc la question, c'est... Le droit est là pour éviter qu'il y ait de la violence dans les sociétés, mais lui-même peut-il ne pas être violent ? Est-ce que c'est pas... Bon, enfin, il y a un texte de Benjamin dans lequel il y a 3 pages consacrées au droit de grève. Et la thèse de Benjamin, je ne développe pas, c'est de dire qu'il y a 2 droits qui posent un problème au droit, qui posent un problème radical au droit et au traitement de la violence... par le droit, c'est-à-dire au traitement non violent des potentialités de violence qui sont dans les sociétés. Et c'est 2 droits qui posent un problème radical au droit, c'est le droit de grève et le droit de la guerre, dit Benjamin. Donc je pense qu'il faudra aller voir par là, un petit peu quand même, ou revoir par là un petit peu quand même. Bref, je m'arrête et j'en suis là. Donc je ne sais pas comment je situerai, je reprends ma liste de mots, le résistant... Le doléant, le suppliquant, le revendicatif, l'insurgé, l'émeutier, le délinquant, le gréviste, les uns par rapport aux autres et par rapport à l'émancipation. Et donc, puisque je ne sais pas comment situer ça, ça veut dire que je suis loin d'avoir traité ma question. Faut-il s'émanciper ? Et que, dans une certaine mesure, si ça vous dit, on peut y revenir l'année prochaine. Après, eh bien, discutons, si vous voulez. Enfin, après, je veux dire, tout de suite, en fait.
Une petite référence, je ne sais pas, tu parles de la grève, c'est un poème, d'ailleurs, je crois, enfin, c'est la forme d'un poème de Pierre Leroux, un très long poème, qui s'appelle « La grève ».
Bah, tu me donneras la référence.
Ouais, il me semble que ça se trouve. Enfin, oui, ça se trouve en bibliothèque, mais je crois pas que ce soit encore publié. Le catholique socialiste.
Pardon ?
J'ai dit le catholique socialiste. Enfin, chrétien.
Moi, j'avais rien. Sur le droit à l'insurrection, enfin, j'ai le souvenir qu'à propos d'Alperin, que tu avais fait référence à Alperin dans les premières séances, c'est qu'il me semble que tu avais dit que chez Alperin, le droit, en fait, continuait des choses qui étaient déjà établies dans les mœurs. Et dans les questions ou remarques, il me semble que tu avais confirmé qu'au fond, il ne pouvait pas tellement y avoir de revendication à l'émancipation, qui serait des revendications en droit, enfin, parce que finalement, le droit ne ferait que mettre en forme juridiquement, enfin, je réduis le propos, des choses qui étaient déjà établies et qui... et du coup, le droit à l'insurrection, ça serait un droit singulier qui consisterait pas à... qui rentrerait pas dans cette définition d'Alperin-là du droit comme mise en forme juridique de choses déjà établies dans les mœurs.
En fait, un séminaire, c'est un drôle de truc. C'est pas comme un cours. Enfin, pour moi, ça n'aura jamais été comme un cours. Les cours, je savais, quand j'en faisais... d'où je partais et où j'allais arriver, les étudiants ne savaient pas. Mais moi, je savais, puisqu'ils ne savaient pas, puisque par définition, j'essayais de leur apprendre quelque chose, donc ils ne pouvaient pas le... ils ne pouvaient pas savoir ce que j'allais leur apprendre si vraiment je leur apprenais quelque chose, mais moi, je savais quand même où j'allais. Quand je fais un séminaire, je pense que c'est ça, un séminaire, c'est qu'on ne sait pas, quand on commence, par où ça va passer, si ça va finir, et où ça s'arrêtera au juste. Donc, on pourrait dire, autre façon de dire la même chose, que quand on est à la séance 6, en fait, il faudrait revoir la séance 2 autrement qu'on l'a entendue ou qu'elle a été dite, parce qu'entre-temps, précisément, on s'est mis à penser des choses qu'on pensait pas, à ce moment-là. En fait, je pense que je ne pouvais pas, à la séance 2, faire à la fois introduire la référence à Alperin et en faire une lecture critique. Je pense que si je reviens maintenant sur le propos de la séance 2 avec ce que j'ai dit, ce que j'ai pu dire à peu près ce soir, je dirais que je pense qu'Alperin, quand il définit ce que c'est qu'un système juridique, alors il le fait pas tout seul, hein, il le fait à partir de deux grands théoriciens du droit dont le nom ne me revient pas à l'instant, mais enfin c'est quand même bon. En fait, je pense que sa position, c'est de dire que en fait un système juridique, c'est un ensemble de dispositions qui finit par exprimer, si je reprends mon verbe de ce soir, exprimer, expliciter des normes, et que, il en reste peut-être des normes qui sont pas explicitées en droit, mais en fond, l'idéal d'un système juridique tel que pensé par ces penseurs du droit, c'est que le droit finit par exprimer ce qu'il y a dans les mœurs, et que... ce qui est d'abord à l'état de normes passe à l'état de droit, précisément. Bon. Or, qu'est-ce que je dis à présent, moi, c'est que il y a toujours de la norme qui se reconstitue. Hein, toujours de la norme qui se reconstitue, et que la question est de savoir comment... appelons ça un système ou un ensemble de droits qui a intégré un certain nombre d'éléments se débrouille avec cette reconstitution de normes incessantes dans lesquelles l'oppression ne cesse de se renouveler dans une certaine mesure. Voilà. Et qu'est-ce que fait le droit avec cette oppression foncière ? Voilà. Apparemment, il a du mal à reconnaître qu'on a le droit de s'insurger contre cette impression foncière. Voilà. Est-ce que j'ai à peu près répondu ? Il va là. Je pense que ça, c'était quand même un peu dans le texte de Benyami. Il va dénoncer ce que l'oppression foncière non pas l'oppression. C'est ça le problème. La position des terminoriens, c'est qu'ils disent rien là-dessus. Voilà. Ils la reconnaissent, mais pour ne rien dire. Le droit, je pense que la tendance du droit n'est pas de reconnaître comme violente l'oppression, mais de reconnaître comme violente, et donc interdire, l'émeute contre l'oppression, ou l'insurrection contre l'oppression.
Et alors, moi, j'avais une question, mais je me demande si tu n'y as pas répondu précédemment, mais j'ai plus le souvenir de toutes les séances. Et, est-ce que tu as fait une différence entre désertion et fuite ?
Ah, entre désertion et fuite, ah oui. C'est une colle.
Ah non, t'as pas fait de différence encore.
Je vois une difficulté dans l'affaire, mais je réponds bêtement, enfin personnellement, si on me demande de dire à quoi je pense quand je dis désertion, je dirais que la première chose, le premier mot qui me vient, c'est soustraction. Voilà, se soustraire, le déserteur se soustrait à un ordre, à une mobilisation. Et en fait, il veut rester mobile, parce que le paradoxe de la mobilisation, dans la mobilisation, il y a mobile. On va dire, la mobilisation, c'est pas une mobilité qui est au bout, c'est une immobilité, au contraire. La mise de tout un peuple en ordre de marche, etc. Donc, le déserteur, c'est celui qui se soustrait pour garder de la mobilité. Alors, est-ce qu'il fuit ?
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est courageux, le déserteur ?
Le déserteur peut être courageux.
À la différence du fuyard.
Alors, le fuyard...
il est courageux aussi.
Voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre avec fuite, quoi. Si on met fuyard... En tout cas, au déserteur, il sera dit ça, que c'est un fuyard, voilà, qu'il n'est pas courageux. Je pense à Jean-Marie Straub, la guerre d'Algérie, etc., c'est ça qu'on leur disait. Vous n'êtes pas courageux, vous êtes des fuyards, etc. Et en fait, où est le plus grand courage, voilà. En tout cas, le mot fuite est un mot embarrassant, parce qu'on peut dire en effet du déserteur qu'il fuit une obligation qui lui est faite, qui lui est signifiée. Voilà. Est-ce que toute fuite à l'égard d'une obligation est un acte de résistance ? Non. Voilà. Donc c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'on a du pain sur la planche. Hein. En même temps, oui. Juste, parce que bon, évidemment, le mot fuite, je pense aux lignes de fuite de Deleuze, etc. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais bon, il faut en reparler. Le résistant, c'est sur place qu'il agit, qu'il commence à résister. Il fuit pas. La liste de mots que je vous ai proposée, il n'y a pas de fuite dans l'affaire. Voilà. Et il y a quand même, soustraction potentielle, en tout cas un bien entendu. Voilà. En tout cas, dans la Seconde Guerre mondiale, les résistants, c'était bien, je mets beaucoup de guillemets, hein, sur le territoire national qu'ils étaient résistants. Alors on me dit, oui, il y en a qui sont passés par Londres, etc. Mais enfin, les résistants, qu'on appelle les mouvements de résistance, c'était bien ceux qui étaient sur place. Voilà. Ce n'est pas des fuyards.
Oui, il y a une forme d'inertie, mais au sens presque positif du mot. C'est-à-dire que ça oppose ça oppose quelque chose. Enfin, il y a de la force d'opposition à la résistance. Oui.
C'est juste quelque chose de très troublant dans ce que vous avez dit à la fin de la réponse à la question qui m'avait posée. Est-ce qu'en dehors du mouvement révolutionnaire, le droit est toujours du côté de l'oppression ? Ce que vous
aviez
l'air de dire.
Oui.
Oui.
Bah, non, j'étais en train de réfléchir. Non, je trouve ça... j'aime beaucoup la partie question-réponse de la fin. Mais en fait, évidemment, pour moi, je ne sais plus ce que je dis. Déjà, quand j'ai des notes... je peux m'y perdre, et là c'est pire encore. Mais en fait, je sais pas ce que j'ai dit au juste, puisque je me suis pas entendu. Mais non, mais je vous fais absolument confiance. Et j'aurais tendance à dire que c'est mon problème avec le droit, en effet. Vous me redites la formule ?
Je disais que ce que j'avais l'impression d'entendre, c'est que vous disiez qu'en dehors du moment révolutionnaire, le droit était toujours du côté de l'oppression.
Oui. Le droit est... Alors, le droit est du côté de l'oppression. Alors, c'est un passage que j'ai sûrement très mal dit, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais l'impression que j'étais arrivé à trouver des formules à peu près claires dans la semaine. Là, puis bon, le droit, il n'est pas du côté de l'oppression. En fait, c'est ça le déni. Il n'en dit rien. Il est ni... donc il la reconnaît sans la reconnaître. Donc quand le droit est du côté de l'oppression, vraiment, on est dans l'excessivement politique. On est dans l'excès de la politique. Mais quand on n'est pas dans l'excès de la politique comme nous, où en est notre droit avec cette affaire-là? En fait, il n'en dit rien. Puisque la position thermidorienne, c'est de dire... c'est pas un mot... c'est un gros mot pour le droit. Donc ça ne veut pas dire que la réalité... n'existe pas, mais bon, on n'en dit rien. Donc je dirais que la tendance du droit, réaliste, ni excessif, ni idéaliste, c'est en effet de laisser l'oppression à l'état de norme. Donc j'utilise la distinction d'Alperin pour ça. Il n'est pas fait droit à l'oppression. Et en même temps, il n'est pas reconnu de droit à l'insurrection contre l'oppression. Donc ça reste à l'état de norme. Et donc, la question, je ne comprends pas ce que j'ai fait avec mes notes, parce que Agamben a beaucoup parlé de ça. Quand il y a le droit d'exception, l'État se donne le droit d'exception, donc il prévoit le droit de pouvoir être lui-même oppresseur, mais il prévoit pas le droit d'insurrection. Voilà. Mais en effet, alors quand il y a révolution, moment politique extraordinaire, quand la politique est dans un état extraordinaire, elle est donc pas dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire, on est dans le réalisme en politique. Et quand on est dans un moment révolutionnaire, on n'est pas dans l'ordinaire réaliste de la politique. Donc, en effet, il se passe quelque chose qui n'est pas... quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui est de l'ordre d'une insurrection de la politique elle-même. Voilà. C'est un moment politique. Je pense que Rancière et Badiou ont dit des choses qui sont assez de cet ordre-là. Voilà. Et là, la question de l'oppression est posée. Voilà. Les moments extraordinairement politiques, je crois, sont des moments où la question de l'oppression est posée en tant que telle. Voilà. Et la fermeture du moment politique ou du moment révolutionnaire, le moment thermidorien par lequel s'achèvent toutes les révolutions, c'est on revient à l'ordre juridique, c'est-à-dire on cesse de s'exprimer quant à l'oppression. On rentre dans l'ordre.
Dans tous les mots que tu as dit à la fin, qu'est-ce qu'on fait du bandit ?
Du
bandit.
Oui, alors tu dis bandit, alors dans le texte de Benjamin, il y a brigand, mais ça revient au même. Ouais. Ouais. Ben, faut l'ajouter à la liste.
Et bricoleur.
Hein? Bricoleur. Alors, oui, il y avait le bricoleur de la dernière fois. Ouais.
C'est le résistant, en fait.
Bah, oui, peut-être que la résistance implique. Alors. Il y a peut-être deux plans. Il y a sur le plan de qu'est-ce qu'on fait avec les modes d'emploi techniques qui produisent des normes, etc. On bricole avec ça d'un côté, mais d'un autre côté, le côté politique, il y a le côté de l'expression de ça et de l'inscription éventuellement en droit. Par exemple, l'inscription en droit qui consisterait à dire on interdit... un certain nombre d'opérateurs techniques, appelons-les, je ne sais pas, Google, Microsoft, enfin, un certain nombre de mener les techniques comme ils font sur un certain nombre de points, etc. Là, il y aura une expression politique du bricolage. Mais on n'en est pas là, en tout cas. Je suis clair, hein ?
Oui.
Ouais.
Celui qui va rebricoler des chemins avec le code pour pas... être dans les normes imposées.
Oui. Celui-là, ou celle-là, me semble être... ne peut pas faire ce qu'il fait. Faire, c'est pas une action. Hein. On n'est pas dans la politique. ne peut pas faire ce qu'il fait s'il n'a pas déserté un petit peu le bien entendu. J'étais assez content de moi sur la fin, là, avec le bien entendu. Hein. J'insiste, parce que ça, au moins, ça restait du cafouillage de notes que j'ai apparemment perdu. Voilà.
Donc la désertion, tu la situes plutôt. Là, tu viens de la situer un peu dans ta liste de mots.
Bah, moi j'ai eu la chance de discuter une fois avec Lucie Aubrac. C'est un grand moment. Je suis très ému quand je repense à ça. Et l'objet de la discussion, c'était comment est-ce qu'on entre en résistance. C'était une vraie discussion, dans une assemblée, une vraie discussion. Un petit pas, en gros, elle a répondu. Les premières actions, entre guillemets, de résistance, c'est des tracts dans lesquels on va opposer des mots aux mots du pouvoir. Des petits mots aux mots du pouvoir. Voilà. C'est pas tout de suite la guerre. C'est pas tout de suite les actions extrêmement courageuses, héroïques, disons. Peut-être que l'héroïsme, c'est un excès de courage, dans une certaine mesure. Donc ce sont des choses. Et le tract, tous, ils ont dit ça. Enfin, tous les résistants que j'ai... qui j'aurais éventuellement discuté ou lu, etc. Je pense qu'ils disent tous ça. Ça commence par la distribution de tracts. Qu'est-ce que c'est qu'un tract ? Un endroit dans lequel on oppose quelques mots aux mots « bien entendu ». Voilà.
René Gautier parle de...
Pardon ?
René Gautier, dans le cas de résistance, parle de... Il était sous de France. Ça a commencé comme ça.
Oui, oui. La résistance, elle ne peut pas être grandiloquente. Mais, enfin, en tout cas, pas pour commencer. Mais, en fait c'est ça. Moi, je pense que, en repensant au séminaire, là, qu'il y a deux choses qui me préoccupent, c'est-à-dire, comment est-ce que... c'était aussi le qu'est-ce que faire dans l'urgence. Où j'essaie d'expliquer que faire, c'est pas nécessairement agir. Mais quand même, il y a les deux registres. On peut pas se laisser faire. On peut pas interminablement laisser les choses être employées pour nous. Si elles sont employées pour nous, et si vous acceptez la définition que j'ai proposée du despote, c'est-à-dire en fait que je suis allé tirer de vieux textes d'Aristote, hein, elles sont disposées pour nous, elles sont préparées pour nous, etc. C'est-à-dire là, il y a de l'oppression qui se joue, puisque c'est fait à ma place. Voilà. Et donc je pense qu'il y a cette affaire-là, ce côté-là, d'opérer par nous-mêmes, et non pas d'être opéré par des dispositions ou des dispositifs. Ça, c'est le côté économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y a l'inscription de ça dans des... dans des formules. Voilà. Comment est-ce qu'on parle la chose? Comment est-ce qu'on l'inscrit dans des formules? Et c'est encore une autre affaire. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être... un opérateur distancié avec les circonstances techniques ou les objets techniques, il faut encore être un animal parlant, hein, donc politique, c'est-à-dire dire quelque chose quant à ça et dans une certaine mesure le faire valoir pour le plus grand nombre. Alors on va dire pour le plus grand nombre, on retombe dans les questions despotisme puisque c'est pour, etc. Bon, ouais. Mais en tout cas, comment ça se parle tout ça est quand même une question.
Quand je regarde ta liste de mots, j'ai l'impression que le déserteur, c'est presque le plus radical au, dans la mesure où, où c'est celui qui n'est pas à sa place, qui quitte sa place, ou qui n'est pas à la place qui lui est assignée, alors que le doléant, le supplicant, fait ça depuis, depuis sa place, le revendicatif aussi, peut-être, peut-être encore l'insurgé, l'émeutier, le déserteur, il la quitte. Alors en même temps, tu semblais le situer plutôt au début, proche du résistant, et en même temps, c'est celui qui est...
Le gréviste, il n'est pas à sa place non plus, il n'est pas devant sa machine à outils.
Oui.
Le gréviste. S'il n'est pas à sa place.
Alors l'expression pas à sa place, elle est difficile.
À la place qui lui est assignée.
Voilà, je pense que c'est mieux si on dit les choses comme ça. Le résistant, au moins intérieurement, n'est pas à la place qui lui est assignée. Et c'est, je pense que c'est le fait de ne pas être intérieurement à la place qui nous est assignée, qui entame l'émancipation ou la liberté ou ce que vous voudrez de ce type-là, pour autant que cette entame soit quelque chose qu'on souhaite, qui soit souhaitable, ce qui est plutôt a priori l'hypothèse qu'on fait, quoi. Être libre, c'est mieux que ne pas être libre, a priori.
Alors, moi, je...
Du coup, c'est compliqué parce que pouvoir manquer à la place assignée, qui est peut-être d'ailleurs une façon de trouver sa place, enfin, une place qui serait plus la sienne, manquer à la place qui est assignée, c'est littéralement la délinquance. Donc tout ça est très compliqué.
Oui, mais je crois que en fait... je vais essayer de faire une phrase. Le peuple, en fait, vous le situez où là-dedans?
Le peuple?
Bah oui.
Je ne le situe pas.
Non, mais un peuple. Non, mais justement, en fait, je vais essayer de m'expliquer un peu. Parce qu'il a beaucoup été question de communauté. En fait... au seul moment où mettre le peuple en sûreté, c'est lui donner le droit de résister en cas d'oppression. Donc si on retire le droit de résistance, est-ce que... en fait, qu'est-ce qui joue là, dans ce dont il est question ici, entre peuple et communauté? Parce qu'il me semble que vous avez fait un usage de communauté ce soir qui est un peu différent de ce que vous pouviez en dire à d'autres moments, ou alors j'ai pas super bien entendu. Est-ce que c'est la communauté des délibérants, justement, je pose ma question de manière plus claire. Toute cette liste, résistants, doléants, supplicants, revendiquants, est-ce que c'est pas plutôt du côté du peuple que de la communauté? C'est-à-dire, dès lors qu'on est dans la communauté, on n'a pas besoin de tout ça, justement. On n'est plus ni dans la... Il n'y a pas à l'être, parce qu'on est dans la communauté, quoi. Enfin... Parce que je sais que le mot peuple est aussi un mot important pour vous, et pour moi en tout cas, il l'est aussi, mais... Enfin voilà, c'est juste ça, c'est-à-dire que toutes ces figures-là ne sont-elles pas, si ce sont des figures, enfin en tout cas, pas, je sais que vous n'aimez pas le mot figure, vous n'êtes pas toujours d'accord avec, mais ce que je veux dire, ces degrés en tout cas, ne sont pas du coup... de fait et de droit, quelque chose qui nous situe d'emblée en dehors de la communauté, en fait. Même de la communauté, la France, par exemple, ou l'Allemagne, parce que vous avez aussi parlé de la communauté comme ça, ce soir. Oui. Donc, voilà.
Je ne sais pas par quel bout je prends la réponse. Enfin, si je peux d'ailleurs répondre...
Je crois que c'est peut-être même une demande pour l'année prochaine. Hein, oui. C'est-à-dire...
Mais je pourrais dire, de façon comme ça... aussi suggestif que possible, il n'y a pas de communauté qui n'ait pas de nom. Mm. Voilà. Alors que peuple, c'est fait d'anonyme.
Oui.
Ben donc, il y a une contradiction. Il y a le nom d'un côté et le nom éminent. Et qui, à mon avis, en plus, ne peut pas ne pas être un nom particulier. C'est-à-dire, il n'y a pas de communauté universelle. C'est pour ça que j'ai dit, en commençant ma remarque... Ce soir, que la communauté tient à l'avoir lieu, et même à avoir le lieu. Alors que peuple, c'est peuple, justement, c'est pas défini. Peuple défini en latin, ça veut dire frontière, hein, finesse. Fini, il y a une frontière, c'est peuple n'est pas défini. Peuple n'a pas de nom. Et peuple est constitué d'anonymes, Michelet, etc. Enfin bon, ça, alors même si chez Michelet, il y a quand même la nation, la patrie qui viennent. Mais enfin, il y a un peuple d'anonymes, voilà, ça n'a pas de nom. Il y a donc forcément une tension entre les communs et la communauté. Et donc, peut-être la question est de savoir qui. Alors, le qui est forcément restreint, parle au nom de la communauté. Et dès lors que vous admettez qu'entre peuple et communauté, il y a une distance, ceux qui parlent au nom de la communauté ne peuvent que parler pour et au peuple, extérieurement à lui, en le transcendant. Voilà. Et nous voilà dans une complication à n'en plus finir, qui fait que je fais des séances obscures comme tout. Et...
Non, mais parce que parfois, en fait, aussi, l'émeute... L'émeute, elle est aussi là parce que jusqu'à l'insurrection, la revendication, la supplication, la doléance, l'insurrection, on est encore dans quelque chose qui est du registre de la parole, finalement. C'est-à-dire de l'expression, mais de l'expression parlée. Là où l'émeute, c'est justement ou un refus de rentrer dans ce registre, ou son impossibilité. Enfin, et ça va très bien avec l'anonymat, par exemple, l'émeute. Enfin, ça va, c'est autre chose, quoi. Mais... Enfin, c'est vraiment ouais. des réflexions, c'est pas des... C'est-à-dire, c'est comme si dans la résistance qui serait liée à un mutisme, enfin là, il y a comme une impossibilité de la parole, et puis on rentre dans une espèce de registre du parler, quelle qu'en soit l'émotion, et puis l'émeute, bah, en fait, c'est... C'est le refus du parler, mais comme une revendication.
Alors, dans ce que j'ai fait ce soir, moi je ne sais pas si Sophie Vaniche m'accorderait la lecture que je fais de son livre. Hein. Mais moi, je ne m'en sors pas de ce qu'elle écrit elle-même, que je lis comme je peux, et de ce que j'essaye de penser par ailleurs moi-même. Je ne m'en sors pas. En tout cas, quand j'ai préparé le séminaire, je ne m'en suis pas sorti autrement qu'en me disant... entre l'insurgé et l'émeutier, il y a une différence. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un séminaire et donc c'est une proposition de distinguer entre l'insurgé et l'émeutier. Et peut-être que c'est une mauvaise proposition, qu'elle n'est pas tenable, que c'est pas une bonne idée. Tiens, il faut voir, il faut déjà en faire l'hypothèse, l'examiner. Moi, j'ai tendance à penser, si on prend les mots le plus au sérieux qu'on peut, émeute, émotion, c'est un mouvement hors de soi. Donc, il me semble qu'une émotion, alors pas ce qu'on appelle dans les médias l'émotion qui se manifeste par le fait que des gens... je sais pas, la liesse qui suit la victoire de l'équipe de France de rugby... Et on voit des gens qui sautent partout, etc. Ça, c'est pas des émotions, hein. Ça, c'est du spectacle. Et donc, l'émotion, c'est lorsque le sujet est mu, il est mu hors de ses capacités de langage, qui sont inhérentes au sujet humain. Un sujet humain, c'est un sujet qui parle. Voilà, un sujet qui est articulé à du langage. L'émotion est un moment de désarticulation du sujet par rapport au langage. Donc on ne peut pas exprimer ce qui nous émeut. Voilà. Et donc, moi, je comprends le livre de Sophie Vaniche en disant il y a eu des émotions populaires en 92-93 qui ne pouvaient pas être parlées, puisque c'était des émotions. Et qu'en fait, il est très important de ne pas... je pense que c'est ce qu'elle pense, mais je ne suis pas sûr... Je pense qu'elle pense que, justement, le drame du moment Robespierre, etc., c'est que appelons ça peuple, tout un peuple a été abandonné à l'émotion, ou s'est abandonné, ou a été abandonné à l'émotion, et là, c'est terrible. et que justement il fallait des mesures d'exception pour faire rentrer les meutes dans l'insurrection. Ouais, je comprends son analyse très subtile, très très intéressante, comme ça. Ouais, juste un petit mot. Moi, j'ai été frappé dans les émeutes des quartiers, les dernières qu'on ait connues. C'est le mot émeute hein, qui a circulé, etc. Et alors, vrai ou faux, j'en sais rien. Mais ce que disaient les émeutiers, les supposés émeutiers, s'ils disaient quelque chose, on ne l'a pas su. C'est une émeute parce que précisément, le discours n'a pas été articulé. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça avec des insurgés. Voilà. Les insurgés, il y a du discours articulé autour de leur conduite.
Sur le hors d'eux, c'est une proposition peut-être un peu déplacée, mais est-ce qu'on pourrait rajouter à la liste des mots, là c'est dans le champ du travail, et c'est une figure qui est quand même très actuelle et très récurrente, la figure du burn-out, qui est aussi une forme de résistance en quelque sorte. Mais c'est pas une parole qui peut s'articuler. Ça pourrait même être, ouais. Ça pourrait même apparaître comme quelque chose d'absolument passif. Mais c'est quand même une forme de désertion, mais qui ne se dit pas. Alors, on rejoint la doléance parce que c'est la souffrance et des choses comme ça. Mais voilà.
Ouais. Je lance dans la... Bah, j'y avais pas pensé, donc oui, bah, il faudrait examiner cette question.
En tout cas, dans le burn-out, je crois qu'un des symptômes, c'est la désertion du lieu de travail, l'incapacité d'aller sur le lieu.
Oui. Peut-être que l'étape de la résistance a sauté. Et quelque chose qui ne résiste pas dans le burn-out. On est
dans le court-circuit.
Ouais, on est dans la doléance, même à peine dans la doléance. En tout cas, toutes ces formes, c'est pas le bon mot, mais... Bon, disons forme, j'en trouve pas d'autres. Toutes ces formes de... Tout ça, ça concerne ce que j'ai essayé d'appeler ce soir les normes pré-juridiques et pré-politiques. Et je pense que le sort de la politique se joue quand même dans là. Ouais. Peut-être il faudrait voir dans la possibilité ou la capacité à faire lier justement résistance, doléance, supplique et aller jusqu'à l'insurrection. Pas de questions à distance. Bon. On s'arrête là pour cette année.
Merci.
Alors merci à tous, ceux et celles qui sont à distance, je les salue aussi. Et je vous remercie tous pour votre patience, donc une fois de plus. Et peut-être à l'année prochaine.